Bienvenidos a este informativo de Radio France.
Paris Live with me, today's headlines.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Bonsoir et bienvenue dans Accent du Monde. Ce soir, c'est avec, pour la rédaction en anglais, Roselyne Himes.
Bonsoir.
Pour le succès de l'expo Caravage au musée Jacques-Marandré. Patricia Moribé, la rédaction brésilienne.
Bonne nuit.
Pour la polémique déclenchée par la nouvelle ministre de la Femme et de la Famille. Et puis, Matej Wiśniewski de la rédaction roumaine.
Bonsoir.
Car la Roumanie préside l'Europe pour les 6 mois qui viennent. Bonsoir à vous tous. Mais avant cela, intéressons-nous une fois encore au mouvement des Gilets jaunes qui continue de faire la une de l'actualité avec une nouvelle journée de mobilisation. Mobilisation partout en France ce samedi, notamment à Bourges, dans le centre du pays. Il vient d'en être question dans le journal. Les revendications sont maintenant nombreuses, diverses, variées. Et à la rédaction en langue roumaine, Matej Wiśniewski, vous vous êtes intéressé particulièrement à ce débat autour du RIC, le référendum d'initiative citoyenne. En quoi cela intéresse les Roumains ?
Oui, je crois que la démocratie est un peu fatiguée et traverse un moment de fatigue partout en Europe. On le voit en France, mais aussi en Italie, en Espagne, en Pologne, en Hongrie. J'ai cité dans mes articles ce que dit Frédéric Worms dans un livre paru en 2017 qui s'intitule « Les maladies chroniques de la démocratie ». Il s'occupe des trois maladies particulières de la démocratie, l'ultralibéralisme, aggravé par la mondialisation, le cynisme renforcé par l'internet et le racisme nourri par le terrorisme. Mais moi j'observe que les maladies de la démocratie ne sont pas les mêmes dans les pays occidentaux et dans les pays de l'Europe de l'Est. À l'Est par exemple, en Roumanie, c'est la corruption qui provoque l'affaiblissement de la démocratie. Il y a 30 ans, il faut qu'on se rappelle, en juillet 89, Francis Fukuyama a annoncé la fin de l'histoire, c'est-à-dire la victoire totale de la démocratie. Aujourd'hui, on se rend compte que la démocratie est en recul un peu partout sur la planète et que l'urgence c'est de la réinventer.
Alors est-ce que ce référendum d'initiative citoyenne réclamé par les Gilets jaunes peut s'inscrire dans cette urgence que vous évoquez de réinventer la démocratie ?
Rien n'est sûr, mais le débat me paraît intéressant et important. Il y a des voix qui disent que le référendum de ce type pourrait marcher. C'est l'avis du ministre de l'économie, Bruno Le Maire, que je citais dans mes analyses. Mais il y a d'autres voix qui se méfient de la démocratie directe. J'ai cité ce que l'historien Rand Lévy dit dans Le Figaro, je cite, « La pratique de la démocratie en dehors des institutions démocratiques risque d'être une aberration. » Mais il a tellement d'avis intéressants. On évoque parfois le modèle de la démocratie suisse, où le référendum est souvent utilisé comme instrument de consultation démocratique. Mais est-ce que cela pourrait marcher dans un grand pays comme la France ou comme l'Allemagne ? Il y a le risque de voir une minorité imposer sa volonté sur la majorité, disent certains experts. Or, il est préférable que la démocratie reste ce qu'elle est, une dictature de la majorité par rapport à la minorité. Ce débat intéresse les Roumains où la démocratie est encore fragile, comme l'état des droits d'ailleurs. J'ai cité aussi le Premier ministre Édouard Philippe qui a prononcé cette expression « La France est en état d'urgence démocratique ». Je peux dire que la Roumanie aussi.
Roselyne Himes, le mouvement des Gilets jaunes en France fait des petits. On le sait, outre-Manche, où la contestation politique et économique monte à cause du Brexit. C'est bien ça.
Oui, et mon collègue Michael Woods cette semaine s'est penché sur cet effet, on appellerait peut-être copycat, je traduis littéralement, vous avez peut-être un autre animal en France.
Chat copie, c'est ça ?
Oui, chat copie.
Pour les Gilets jaunes.
Non, pour ce mouvement qui fait miroir, qui imite ce qui s'était déjà passé et ce qui se passe encore en France.
Dites-nous en plus, qu'est-ce qui s'est passé justement cette semaine précisément concernant ce mouvement ?
En effet, cristallisé autour de l'incertitude sur le Brexit et donc l'avenir du pays. On a vu un certain niveau de violence monter à la surface, accompagné de certaines idées violentes. Sur notre site web, on peut regarder deux vidéos trouvées sur les réseaux sociaux. Un membre de Parlement, Anna Soubry, qui demande un deuxième référendum sur le Brexit, se faire traiter de nazi et de fasciste par des manifestants portant le gilet jaune. On entend les gens essayer d'écarter la personne qui est le plus en colère et le plus agressif, et lui qui leur répond « Vous voulez la guerre, je vous ferai la guerre », les poings en l'air. Il s'appelle James Goddard. Il a déjà été associé avec l'extrême droite. Les réseaux sociaux ont fermé les pages utilisées par cette personne pour promouvoir et financer ses activités. Il n'est que la face identifiée des éléments qui accusent d'autres d'être fascistes. Un groupe de députés des deux camps reste en Europe et quitte l'Europe. ont signé une lettre pour alerter tout le monde aux accusations qu'ils considèrent injustifiées et amalgames, et aux gens ayant des liens avec l'extrême droite qui ciblent les députés, les journalistes, les activistes et les membres du public, un peu comme en France.
Voilà donc pour ce mouvement copycat. Dites-nous en plus sur sa provenance. D'où vient ce mouvement qui imite donc les Gilets jaunes en France?
On les a vus apparaître en Angleterre, à Londres, notamment près du Parlement Westminster, il y a un mois à peu près avant Noël, et assez rapidement après le début des manifestations en France. Michael a discuté avec Chris Allen à l'Université de Leicester. Il est spécialiste de l'extrême droite et qu'on peut écouter, il nous explique.
One of the things we've got in the UK is that over the past years, the far right and the extreme kind of radical right have begun to diversify.
Que dit le professeur Allen?
Il dit que les groupes d'extrême droite se servent des libertés civiles ou bien du Brexit pour trouver de nouveaux supporters et pour élargir leur sphère d'influence. Il y a quelques années, on a constaté une diversification, il dit. Le mouvement des Gilets jaunes à Londres depuis quelques mois est la plus récente incarnation donc de ce phénomène qui cherche l'extrême droite qui cherche à réinventer son image. Et ils espèrent cacher leur idéologie, même derrière un écran de pro-Brexit, par exemple.
Il y a donc une contestation en Grande-Bretagne comme en France, mais malgré tout, il y a des différences.
C'est une différence très importante et à la base en France, les Gilets jaunes avaient une seule revendication au début, la révocation d'une taxe sur le fioul. Le gouvernement français s'est permis d'activer cette demande. Depuis, il y a un grand mouvement plus général, c'est vrai. En Angleterre, c'est pas tellement contre Theresa May comme c'est contre Emmanuel Macron. Les manifestants en Grande-Bretagne ne sont pas méfiants du grand débat, par exemple. Ils considèrent qu'ils l'ont déjà eu et surtout qu'il ne faut pas revenir sur ce référendum à décider. Ils veulent absolument plus de débat sur ce sujet qui les chatouille. Et les manifestants pro-Europe et sans gilets jaunes n'attendent par contre que ça.
Patricia Moribé, est-ce qu'on parle de ce mouvement de contestation en France, des gilets jaunes au Brésil?
Ouais, l'effet que le gilet jaune appelle à retirer massivement de liquide de banque pour faire vaciller les systèmes a bien été pris au Brésil. La menace est faible, mais cette nouvelle a fait revenir un très mauvais souvenir chez les Brésiliens. En fait, les circonstances sont très différentes, même à l'opposé. C'était en 1990, avec un nouveau président, Fernando Collor de Mello, un homme riche, jeune, beau. À l'époque, son mandat est marqué par l'application d'un plan d'assaisissement le plus sévère de l'histoire du pays. Privatisation d'entreprises, de réglementation, de négociations salariales, coupes dans le programme social, etc. Du jour au lendemain, le gouvernement décrète un gel de 18 mois de tout ce que les citoyens avaient en banque. Compte courant, épargne, en clair, les gouvernements a confisqué l'argent de la population. Chaque personne ne pouvait garder sur son compte au maximum que l'équivalent de 1 500 euros. Impossible de se marier, de voyager ou même payer ses dettes. À la suite de dénonciations de corruption, Fernando Collor de Mello a finalement démissionné 2 ans après, avant d'être démis de ses fonctions.
Et il y a autre chose qui a intéressé la rédaction brésilienne, c'est ce soutien du gouvernement italien aux Gilets jaunes.
Oui, lundi, le 7 janvier, le ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, de l'extrême droite, a déclaré soutenir le citoyen honnête qui proteste contre un président gouvernant contre son peuple. Le vice-premier Luigi Di Maio a même comparé les Gilets jaunes à son groupe, le mouvement 5 étoiles M5S anti-système. Il a proposé aux Gilets jaunes de mettre à leur service la plateforme internet du mouvement. La ministre des Affaires européennes, Nathalie Loiseau, n'a pas tardé à tweeter que Monsieur Salvini et Di Maio apprennent à balayer devant leur propre porte. Cette provocation italienne comme arrière-pensée les prochaines élections européennes pour lesquelles France et Italie se voient déjà comme rivales.
Voilà pour ce mouvement des Gilets jaunes vu par 3 des rédactions en langues étrangères de Radio France Internationale.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Intéressons-nous maintenant à des sujets particulièrement traités par vos rédactions. Pour la première fois, la Roumanie préside l'Europe pour 6 mois, puisqu'il s'agit d'une présidente tournante de l'institution. Une cérémonie a eu lieu ce jeudi à Bucarest. Une cérémonie marquée, Matej Wiśniewski, par un discours très acclamé du Polonais Donald Tusk, qui est le président du Conseil européen.
Oui, Donald Tusk impressionnait tous les Roumains par le contenu et par la forme de son discours. Un discours de 7-8 minutes où il a cité des écrivains et des philosophes roumains, dont André Pleche, aux personnalités très critiques par rapport au pouvoir sociodémocrate en place à Bucarest. Donald Tusk a demandé aux Roumains de défendre l'Europe, la démocratie, la liberté, l'état des droits. Et, surprise considérable, il l'a fait en langue roumaine. Écoutons le Polonais Donald Tusk s'exprimer très très bien en roumain.
Celor care fac eforturi pentru a apera valorile europene.
Alors vous aussi parlez très bien le roumain, forcément, qu'est-ce qu'il dit en substance?
Il dit, à ceux qui font des efforts pour défendre les valeurs européennes, notre liberté et nos droits, je leur dis continuer la lutte. N'oubliez pas que des provocations vont exister toujours et parfois, comme dit l'écrivain Mircea Eliade, la lumière ne sort pas de la lumière, mais des ténèbres.
Alors dans la presse française, allemande, italienne, il y a eu en ce début d'année des interrogations, voire des critiques à propos de cette présidence roumaine de l'Union européenne. Cette question qui à chaque fois revient, est-ce que la Roumanie est préparée, est-ce qu'elle est apte pour assumer une telle charge?
Oui, ce sont des doutes justifiés dans la mesure où le pouvoir à Bucarest est engagé dans une sorte de bras de fer avec les juges pour diminuer autant que possible l'indépendance de la justice. Je cite d'un article paru ce mercredi dans Libération et signé par Irène Costelian. L'homme fort du pouvoir, Liviu Dragnea, n'a de cesse de multiplier les offensives contre la justice roumaine et de vouloir restaurer une culture de l'impunité. Il n'avait pas pu accéder au poste de Premier ministre au moment où son parti arrivait au pouvoir en 2016, à cause de son casier judiciaire déjà entaché par une condamnation à 2 ans de prison avec sursis pour fraude électorale. Depuis, une seule obsession habite Dragnea, tenter d'annuler ses condamnations pour avoir un casier vierge et se présenter à la présidentielle roumaine de décembre 2019.
Une autre chose, Matej, est assez inhabituelle, c'est le fait que le chef des sociodémocrates roumains poursuit en justice la Commission de Bruxelles.
Bon, il y a des éléments du grotesque et d'absurde dans cette histoire. La Commission de Bruxelles a accusé l'homme fort de Roumanie d'avoir détourné des fonds européens. Alors, en ce moment, ce monsieur qui a l'ambition de devenir un leader fort dans la foulée de Poutine, Erdogan ou Viktor Orban, pour lui, la meilleure défense, c'est l'attaque.
Et puis, encore une chose à savoir, c'est qu'en même temps que cette présidence roumaine de l'Union européenne se déroule, en France, il y a une saison culturelle France-Roumanie.
Oui, avec beaucoup d'artistes roumains qui se produisent en France, des expositions, présentations de spectacles, des films roumains, gastronomie roumaine, événements roumains. Je dirais que deux Roumanies projettent en ce moment deux images. La Roumanie de la culture et de la créativité qui projette une image positive et la Roumanie de la politique qui envoie une image plus sombre. Or, la classe politique roumaine doit comprendre que la culture ne peut pas tout faire. Une culture politique de la responsabilité doit se construire si on veut que la Roumanie devienne crédible comme état de droit et démocratie stable.
Et puisque l'on parle de culture, Matej Wiśniewski, journaliste à la rédaction roumaine de RFI, il faut aussi savoir qu'à vos heures, vous êtes l'auteur d'une pièce de théâtre qui est jouée en cette rentrée théâtrale à Paris, au théâtre de la Contrescarpe, est donnée « Comment j'ai dressé un escargot sur tes seins ». C'est avec Salvatore Caltabiano dans le rôle principal. J'invite bien évidemment nos auditeurs parisiens à aller voir votre pièce. Les premiers jours de présidence de Jair Bolsonaro au Brésil, bien évidemment. Son gouvernement compte des personnalités, des ministres très folkloriques, on va dire. Ce qui suscite des commentaires et des polémiques, Patricia Moribet.
Oui, je vous rappelle que Jair Bolsonaro est élu avec l'appui de puissants lobbies conservateurs, ce qu'on nomme le BBB.
Alors pourquoi ?
Initial de bœuf. Bâle et Bible. Ces groupes comptent de dizaines de parlementaires issus de divers partis défendant respectivement les intérêts de l'agro-business, le bœuf, de la libération du port d'armes et une ligne dure en matière de sécurité publique, la bâle, et des églises évangéliques, Bible.
Et puis il y a ce nouveau ministère de la femme, de la famille et des droits de l'homme. Qui Bolsonaro a-t-il choisi ?
Oui, et pour ce tout nouveau ministère de la Femme, de la Famille et des Droits de l'Homme, il a choisi Damaris Alves, 54 ans, avocate, prêcheuse évangélique. Avant sa nomination ministérielle, elle a été conseillère juridique au Congrès national pendant plus de 20 ans. Pendant son discours d'entronisation, elle a fait des remerciements et répété qu'elle avait assisté à une apparition de Jésus perché sur une branche des goyaviers. Une vidéo virale la montre peu de temps après son intronisation en train de faire la fête avec son entourage. On l'écoute.
Bon, on la sent très contente. Qu'est-ce qu'elle dit?
Oui, elle dit « Attention, attention, c'est une nouvelle ère au Brésil. Les garçons s'habillent en bleu et les filles en rose. »
Les garçons s'habillent en bleu, les filles en rose. Ça ressemble à une pièce de théâtre. Hein. Mais pour autant, c'est une déclaration qui, là, a déclenché une pluie de commentaires sarcastiques, humoristiques sur les réseaux sociaux au Brésil.
Tout à fait. De nombreuses personnalités ont publié des photos où elles posent avec des vêtements bleus pour les femmes et roses pour les hommes, comme le chanteur et compositeur Caetano Veloso, qui s'est fait photographié en rose. Et quelques jours après, pour sa défense, Damaris Alves a affirmé que la phrase était une métaphore de la théorie du genre du président et qu'on peut porter n'importe quelle couleur de vêtements. On ne sait pas exactement ce que ça veut dire. Il faut aussi savoir que la ministre est ouvertement contre l'avortement, qui est interdit au Brésil, sauf en cas de viol, de malformation du fœtus ou de risque pour la mère. Une communauté LGBT fait très attention à cette dame.
Qui s'appelle donc Damaris Alves, si je le prononce à la française. Patricia Moribé, de la rédaction brésilienne de RFI. Et puis c'est à Paris que cela se passe, et cela a retenu toute l'attention de la rédaction anglophone. Une exposition actuellement au musée Jacquemart-André, qui s'appelle Caravage à Rome, amis et ennemi, vous l'avez vu, Roselyne Himes.
Oui, et c'est une exposition qui est prête à battre le record des entrées au musée, qui est aujourd'hui à 250 000 visiteurs. Pour cette exposition, il y a déjà 200 000 personnes, voire plus, qui sont allées voir l'expo qui parle de Caravage, le maître de Chiaroscuro, et quelque part l'instigateur du baroque. Les pourquoi de cette exposition dans son contexte Caravage à Rome, donc une période donnée, ses amis, ses ennemis, accompagnés de tableaux de peintres qu'il a connus personnellement.
Oui, parce qu'il y a des tableaux du Caravage, mais pas que, c'est ce que vous nous dites. Hein.
Oui, c'est ça. Et j'ai rencontré Pierre Curie, qui est co-commissaire de l'exposition et commissaire du musée, qui m'a répondu gentiment en anglais.
It's a question I can't really answer. I don't know. It's a kind of a Caravaggio effect, indeed.
Que dit-il?
Mais il parle du Caravaggio effect, de l'effet Caravage, et par la suite, le fait qu'en France, la dernière fois qu'on a vu une exposition où on pouvait voir les œuvres de ce peintre du Seicento, était en 1965. Et ça, c'était dans une exposition qui était plus générale, d'ailleurs, sur le Seicento, les peintres au XVIIe siècle italienne. L'exposition est petite, il le remarque, mais le but, c'est de montrer ces tableaux de Caravage, de ceux de ses pairs, et effectivement, comme j'ai dit, de montrer le peintre dans son contexte et de donner un peu plus de personnalité au peintre et derrière ses œuvres qui sont tout autant sur les thèmes religieux que sur la vie contemporaine à Rome, dans les tavernes où on buvait, on jouait aux cartes et parfois on s'entretuait.
Quelques informations pratiques pour voir cette expo.
Il continue jusqu'au 28 janvier et les trois derniers week-ends, donc à partir de celui-ci, il y aura des nocturnes. Le dernier, le 26, le 27 et 28 janvier, jusqu'à 22h. Donc ils essaient de battre leur record.
Roselyne Himes de la rédaction anglophone RFI. Beaucoup de rendez-vous culturels finalement à Paris, hein, entre une pièce de théâtre, une exposition. Merci en tout cas à vous tous pour cet éclairage sur ce qui fait l'actualité dans le monde. C'était Accent du Monde et dans quelques instants, ce sera l'essentiel de l'actualité sur Radio France Internationale.